Il faut généralement avoir connu ces deux épreuves. Il faut avoir fait des fautes, il faut avoir payé le prix de ces fautes, il faut avoir vu s'éloigner des gens qui vous aimaient, il faut en avoir perdu d'autres, il faut avoir connu quelquefois la maladie, la souffrance, pour vraiment changer sa croyance, pour transformer sa manière de voir le monde et la transformer radicalement en autre chose. Tout simplement parce que l'homme qui tout réussit, qui a de l'argent, qui a la fortune, qui a des amis, il n'éprouve pas le besoin de changer ses croyances. Ses croyances sont bonnes puisque tout lui réussit. Il faut qu'il lui arrive quelques coups durs pour qu'il se dise peut-être que je me suis trompé. Eh bien, pour l'humanité, c'est pas différent. C'est seulement beaucoup plus important parce que ce sont des millions d'hommes, des milliards d'hommes qui sont en jeu, non pas seulement quelques individus. Pour que des milliards d'hommes, enfin peut-être pas à l'époque des milliards, mais en tout cas certainement des centaines de millions, pour que des centaines de millions passent du culte de la justice, du bien et du mal, de la rigueur, du cercle, du foyer, de la famille, de la culpabilité, de l'exclusion du coupable, de l'interdit, pour qu'il passe de toute cette armature à l'armature évangélique ou bouddhique, c'est-à-dire à la simple exigence d'aimer, et d'aimer le fautif, d'aimer le coupable, de sauver le coupable d'abord, avant tout autre. Il fallait un renversement mental prodigieux. Pourquoi est-ce qu'on a crucifié le Christ? D'abord, parce qu'il a condamné la justice dans tous les maux de sa vie, dans toutes ses paraboles, et que ce n'était pas supportable pour des gens qui ne vivaient que d'amour. Quand le Christ dit « Celui qui travaille une heure doit être payé le même prix que celui qui travaille la journée parce qu'il a besoin, comme celui qui travaille toute la journée », c'était un scandale inadmissible à l'époque. Quand il dit « Cette femme est adultère, mais que celui qui n'est pas coupable lui jette la première pierre », c'était un scandale à l'époque. Quand il disait le bon fils est là qui est prêt à rentrer, aimer son père et lui donner toutes sortes de biens et de prévenances, et puis il y a l'autre qui est parti là-bas avec les maudits, avec les prostituées, qui vit comme un cochon, eh bien ce fils revient, ce mauvais fils, et pour lui tu vas faire ce que tu n'as pas fait pour le bon, c'est pour lui que tu vas tuer le veau gras, c'est lui que tu vas accueillir comme une fête. C'était un scandale épouvantable. Quand il disait, vous avez 999 brebis fidèles, et puis il y en a une qui s'en va, qui est perdue, elle est dans le désert, mais il faut que vous abandonniez les 99 fidèles pour courir chercher celle qui est perdue. C'était un scandale épouvantable. Il n'y a pas une parole de l'Évangile qui ne soit un scandale épouvantable au regard de la justice. Pour que les hommes soient capables de ce renversement prodigieux, il faut évidemment qu'il passe par une absence totale de Dieu. C'est dans la mesure où les hommes ont connu le rationalisme du 4e et 3e siècle avant Jésus-Christ, où tous les dieux étaient rejetés, ridiculisés, où on disait, mais les dieux, c'était des hommes qu'on a divinisés, Démocrite dit, tout ça n'est pas sérieux, etc. Et puis il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus rien, Delphes était abandonnée, les terres d'Eleusis, des vierges étaient vendues, tout. Il n'y avait plus de Dieu du tout, ni en Grèce, ni à Rome, nulle part. Eh bien, il a fallu cette mise à plat, il a fallu ce désert, pour quand même enlever, disons, la principale virulence des prêtres juifs ou des prêtres grecs, parce que dans la virulence, où étaient les prêtres juifs au temps de Josias, ou les prêtres grecs au temps de Darcon ou de Solon, on n'aurait jamais pu même suggérer l'idée d'un Dieu différent. Ce n'était pas possible. Donc le rationalisme a pour première raison, premier résultat, de diminuer, d'achever d'affaiblir la puissance des dieux antérieurs. Et c'est tellement clair cela que les dieux qui disparaissent, les religions qui disparaissent, ce sont particulièrement les religions attachées aux dieux anciens. Mais les religions prophétiques, elles survivent et renaissent, même s'il ne reste plus d'empire grec, même s'il ne reste plus d'État grec, l'esprit grec va imprégner les siècles du christianisme. Et saint Augustin et d'autres reconnaîtront ce qu'ils doivent à Platon, ce qu'ils doivent aux grands prophètes juifs, et aux grands prophètes grecs aussi comme Platon. Parce qu'il y avait dans Platon, il y a dans le banquet de Platon, il y a dans la République de Platon, il y a dans des aphorismes comme celui de la grotte, une attente de l'amour, une précision de l'amour, une formulation de l'amour, qui venait à Platon de Socrate d'ailleurs, qui était une sorte de saint lui-même, et il y avait donc là quelque chose qui a survécu, par exemple à la destruction du temple juif de Jérusalem, l'abolition complète de la religion juive. Il y a eu d'une part la destruction du Dieu ancien, mais il y a eu conservation, malgré le rationalisme, de ce qui pouvait le mieux préparer au christianisme, d'une manière humaine. Naturellement, je ne dis pas que Platon était un Christ, ce n'était qu'un homme, c'était un très grand philosophe, un très grand mythologue, mais ce n'était pas un dieu, bien sûr. Je ne dis pas qu'il y a eu aujourd'hui des dieux qui annoncent le futur, mais il y a des hommes, ces prophètes dont je vous parle notamment, et je pourrais vous parler pendant des heures des prophètes islamiques qui ont été considérables au Moyen-Âge et à la Renaissance, Ibn Arabi, Averroès, Chorowardi, et puis Moulla Sadra au XVIIe, et encore le Bab au siècle dernier. Ce sont des êtres d'une intelligence et d'une pénétration mythologique extraordinaire, et ils avancent, ils annoncent ce libre esprit, ils annoncent ce dispensateur qui ne sera plus un dieu d'amour, mais qui sera un dieu de liberté. Et tous les prophètes, depuis le début du Moyen-Âge, ont annoncé, ont cherché à définir, et ils n'ont rien fait d'autre, je dirais, que chercher à définir ce que peut être qu'un Dieu de liberté. Et non seulement en Occident, mais dans le monde entier. Un grand prophète indien de la fin du XIIe siècle, Ramanuja, qui prêchait déjà l'arbre de liberté, l'arbre sacré, se voyait répondre, mais qu'est-ce qu'un dieu de liberté? Est-ce que ça sera un dieu qui est libre, totalement libre, ou est-ce que c'est un dieu qui rendra l'homme totalement libre? Et il y a eu, chez les successeurs de ce prophète, deux grands courants, un courant nordique, un courant méridional, qui se sont opposés, les uns disant, la liberté, c'est la liberté humaine, et par conséquent, il faut s'éloigner des dieux, et puis l'homme sera libre quand il aura renoncé, c'est la voie qui débouchera sur le rationalisme moderne. Et puis les autres disaient, mais pas du tout, ça va être effroyable, c'est un dieu totalement libre, c'est un dieu qui n'est plus lié ni par la justice, ni même par l'amour, c'est un dieu qui fait ce qui lui plaît. Et alors l'homme n'est plus qu'un jouet entre les mains d'un tel dieu, d'une telle divinité, et vous voyez comment de la même notion, de la même idée, on peut déduire deux voies diamétralement opposées. Et ces deux voies, il faut bien dire que depuis le Moyen-Âge, elles ont continué de cheminer l'une à côté de l'autre, une voie fanatique pour laquelle le dieu doit être une sorte de souverain terrifiant et monstrueux, une sorte d'ogre, une sorte de joueur maléfique, satanique, Lucifer même en réalité. Et les autres pour lesquels, non, la liberté, c'est simplement la liberté de l'homme qui va de plus en plus être capable de se débrouiller tout seul sans faire appel à des dieux. Donc, qu'est-ce que pouvait être cette liberté? Ils ont cherché dans toutes les directions nous avons cherché, nous les hommes, dans toutes les directions depuis 8 siècles. Il y a d'abord eu la scolastique, qui n'est pas seulement chrétienne, mais qui est aussi médiévale, c'est-à-dire où on a cru qu'on découvrirait, qu'on serait plus libre par le savoir. C'était pas un savoir rationaliste, attention à l'époque. La scolastique n'a rien de rationaliste, ou du moins c'est une rationalité qui est encore très mythologique, mais qui est consciente d'être mythologique. Mais c'est le dieu de savoir, c'est-à-dire c'est Hermès, C'est le dieu, c'est l'ancien dieu serpent, l'ancien dieu cancer, c'est l'ancienne Canos qui entourait le monde de ses anneaux. C'est ce dieu-là qu'honore les scolastiques et ils honorent dans le Christ, quand ce sont des scolastiques chrétiens, ils honorent d'abord la sagesse. C'est le dieu de sagesse qu'ils honorent. Ce n'est plus le dieu d'amour, ce n'est plus le dieu sacrifié, c'est le dieu de sagesse. Marie et la sagesse, et Sophia. Il y a confusion entre la Vierge et Sophia. Cette scolastique a débouché sur la mort, sur rien, au fin du 15e. Bien sûr, elle était devenue tellement ridicule avec ses démonstrations logistiques qui ne menaient à rien, qu'on s'est éloigné d'elle. On est revenu à un dieu martien, un dieu, le Mars romain, ou l'Héros. Héros et Mars, c'est le même dieu, vous savez. Arès, c'est seulement le dieu le Sagittaire dans la guerre, et Héros dans l'amour. L'un est un dieu de bien, l'autre un dieu de combat, mais c'est toujours l'archer, celui qui lance la flèche. Et bien, c'est ce dieu que vont honorer les papes du 16e siècle. Borgia, mais aussi Farnèse, mais aussi Paul de Cal, de grand pape également, celui qui est sensible chez Ignace de Loyola, surtout aux côtés de mission que va instaurer Loyola, c'est-à-dire qu'il va mettre dans la postérité humaine cette notion que le dieu archer envoie. Il est celui qui envoie la flèche, qui envoie le Messie, qui envoie des missionnaires. Et c'est sous l'égide de ce dieu de gloire, comme disait Ignace de Loyola, que vont être fondées les missions, qui n'auront pas tellement pour but de répandre l'amour dans le monde, mais de l'imposer comme une libération possible de l'homme et des peuples. Et ensuite, nous verrons, à la fin au XVIIe, nous verrons renaître un des dieux qui avait disparu depuis bien longtemps, les dieux géméliques, les dieux gémeaux. Et ils vont apparaître formellement, c'est-à-dire que les carmes et d'autres moines vont dire qu'ils sont revenus, que les deux témoins sont revenus, certains vont s'appeler les deux témoins, deux prophètes anglais, qui en 1651 précisément ont annoncé surtout d'Élie et d'Élisée, les témoins, qui étaient déjà la figure, disons, hébraïque des témoins, des gémeaux. Et puis, on va voir Élie lui-même apparaître dans des villes d'Italie, guérir de la peste, etc., guérir des dernières épidémies. Mais surtout, à côté de cette croyance purement mythologique dans le double, dans les frères, dans les deux Jean également, qui est une figure chrétienne des Gémeaux, le Jean de l'équinoxe d'été et le Jean de l'équinoxe d'hiver, à côté de cette expression mythologique, c'est la vie tout entière, c'est la vie de chaque jour qui va être transformée par ce renouveau du mythe du semblable. Ça va être l'invention du prophète Campanella au début du XVIIe qui, dans la Cité du Soleil, va dire quelle est la forme, va chercher quelle forme va prendre, vont prendre les gémeaux dans leur renouveau. Et il va trouver le mot observation. Il va dire c'est à partir de l'observation que va se fonder l'époque rationaliste qui s'annonce. Et tout ne va plus être qu'observation, on ne croira plus qu'au reflet, on ne croira plus qu'au même. Et je viens de vous dire tout à l'heure que c'est à ce moment-là aussi qu'on a trouvé cette admirable renaissance de l'ancienne causalité hellénistique, mais par d'autres moyens, les mêmes causes produisent les mêmes effets.